Plusieurs des villes de l'Abitibi actuelle doivent, à tout le moins en partie, leur existence à l'industrie minière. Il peut s'agir de villes champignons, donc des villes qui poussent très rapidement, souvent de manière désorganisée quand beaucoup de gens affluent, par exemple, suite à l'ouverture d'une nouvelle mine, ou encore, vous avez des villes de compagnie, donc une entreprise qui se construit une ville dortoir, au sens propre de l'expression, pour ses travailleurs. Là, en règle générale, vous avez un plan de développement, les maisons sont souvent toutes pareilles, la compagnie paie à tout le moins en partie les services municipaux. Et vous me permettrez une parenthèse à propos de ces fameuses « company towns », comme on les appelait. C'est un bien drôle de système. Les compagnies, par exemple, pouvaient faire construire une école dans le village pour les travailleurs qui avaient des enfants, mais ces derniers devaient se cotiser pour payer l'institutrice. Ça ne faisait pas toujours partie des avantages sociaux de la vie de mineur. Parfois, c'était « bring your own maîtresse d'école ». Et travailler pour une société minière et vivre dans la ville de la compagnie, c'était se rendre très vulnérable face à son employeur. Dans bien des cas, tant que la population n'était pas trop importante, vous aviez un magasin en ville, propriété de la compagnie, et les mineurs étaient payés à tout le moins en partie un coupon échangeable au magasin. On imagine facilement le genre d'abus que ça pouvait entraîner. Un commerce en situation de monopole pouvait facilement charger les prix qu'il voulait pour les denrées. Il n'était pas rare de voir des travailleurs qui avaient un solde négatif à la fin de la semaine. Leur salaire ne couvrait pas l'ensemble des dépenses qu'ils engageaient envers la société qui les employait. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été très populaire dans les années 1940 et 1950 qui parlait des mineurs de charbon vivant dans une ville de compagnie et ça disait « J'espère que Saint-Pierre ne viendra pas me chercher maintenant. Si je meurs, je dois donner mon âme au magasin de la compagnie pour couvrir la dette que j'ai envers eux. » Je ferme la parenthèse. Un bon exemple des deux modes de développement dont je vous parlais il y a une minute, ce sont Rouen et Noranda, qui ont été deux villes distinctes jusqu'en 1986. Rouen s'est développé au départ après que la découverte d'un important gisement de cuivre et d'or près du lac Ossisco ait provoqué une ruée vers la région. Incidemment, un des tout premiers prospecteurs à avoir vu le potentiel minier de la région fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est un néo-écossais qui s'appelait Edmund Horne. La fonderie Horne, qui rejette des métaux lourds à volonté dans l'air de Rouyn-Noranda, est nommée en son honneur. Donc Rouyn va au départ se développer un peu à la va comme je te pousse, alors que Noranda, c'est la ville de la Noranda Mines Limited, compagnie américano-anglo-canadienne basée à Toronto, qui exploitait la mine. La ville appartient pas en totalité à la minière, mais elle y disposait de pouvoirs étendus. D'ailleurs, le premier maire de Noranda était nul autre que le président de la compagnie et c'est le directeur général de l'entreprise qui lui a succédé en 1929. Mais il existait un autre modèle de développement. Les années 1920 et 1930 verront la naissance de plusieurs villages de squatters. Donc, plutôt que de s'acheter ou d'obtenir un lot, on choisit un terrain qui ne nous appartient pas et on se construit une maison à la mesure de nos moyens. Vous pouviez avoir un squatter ou une famille de squatters à un endroit donné, mais il n'était pas rare de voir une concentration de gens créer une nouvelle communauté sur des terres qui n'étaient pas à eux. Un des plus importants villages de squatters de l'Abitibi, et un de ceux qui a eu l'existence la plus mouvementée, s'est appelé de plusieurs manières, mais est passé à la postérité sous le nom de Roc d'Or, donc Roc, R-O-C, d'Or. À la fin des années 1930, quatre compagnies minières s'installent coup sur coup autour de Malartic. Certaines d'entre elles vont se créer des villages de compagnie pour héberger leurs travailleurs. À partir de 1936, un nombre croissant de gens venus travailler dans les différentes mines de la région vont s'installer sans titre de propriété sur des terres de la couronne au nord de Malartic, le long de la route qui mène à Rouyn et Noranda. Roc d'Or va rapidement voir sa population passer de 175 à 800 et va dépasser le millier d'habitants au début des années 1940. Roc d'Or, c'était un véritable village. On y retrouvait restaurants, hôtels, épiceries, magasins généraux. On a une salle de billard, deux barbiers, un poste d'essence vendant les produits d'une multinationale pétrolière. Mais il manquait quelques petites choses. De un, on n'avait pas d'église, ce qui est étonnant pour un village majoritairement canadien-français des années 1930 et 1940. Ça va d'ailleurs ajouter à la réputation salace de Roc d'Or que les gens des environs, les résidents de Malartic tout spécialement, avaient surnommé Putainville. Il y avait des familles dans le village, mais une forte proportion de la population était composée d'hommes célibataires qui pratiquaient des métiers très durs physiquement et très dangereux. Ils ne passaient pas, on s'en doute, tout leur temps libre à dire leur chapelet. Un rapport de police rédigé dans les tout débuts de Roc d'Or faisait état de 25 personnes qui vendaient illégalement de l'alcool et 9 prostituées sur une population totale de 175 habitants. Tout au long de sa courte existence, Roc d'Or a été marqué du sceau du libertinage, des salons de jeux clandestins, des débits de boissons clandestins. La commission des liqueurs, l'ancêtre de la Société des alcools, avait sa propre force de police à l'époque chargée de lutter contre ceux et celles qui faisaient le commerce d'alcool sans permis. La police de la liqueur a fait plusieurs descentes à Roc d'Or. Jacques Miquelon, plus tard député et ministre de l'Union nationale sous Maurice Duplessis, disait dans ses mémoires que les gens qui fréquentaient les bordels du village le faisaient très ouvertement, et je le cite. Les clients s'y rendent comme ils vont à l'épicerie, à la pharmacie ou à la banque et, sauf les âmes dévotes, personne ne s'en scandalise. Toutefois, vivre dans un lieu exempt d'opprobre social à propos des vices que sont le travail du sexe, l'alcool et le jeu, ça ne remplace pas certains services de base comme les égouts et l'eau courante. Roc d'Or était techniquement un village illégal et n'a jamais bénéficié de ce genre d'infrastructure municipale. Les résidents résidentes ont fait des demandes répétées au gouvernement provincial pour devenir véritablement une municipalité. Ils ont essuyé refus après refus. Et en 1942, le ministère des Terres et Forêts va décider de vider la question une fois pour toutes et charge ses fonctionnaires de se rendre sur place, d'enquêter et de déterminer quelle devrait être la marche à suivre à Roc d'Or. Conclusion de l'enquête, il fallait rayer le village de la carte purement et simplement. Pourquoi? D'abord, les enquêteurs ont été frappés par la pauvreté et l'insalubrité des lieux. Beaucoup de gens squattaient des terrains parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'installer ailleurs. Et sans services municipaux dignes de ce nom, on se débarrasse des eaux usées comme on peut, on se débarrasse des déchets comme on peut. Les logements étaient souvent surpeuplés, envahis par la vermine. On a dit dans le rapport d'enquête qu'une porcherie bien tenue serait plus propre que bien des logements de Roc d'Or. C'était pas faux, mais c'était pas une situation unique au village. Les gens qui vivaient dans la précarité, qu'ils soient en ville, en campagne ou sur un terrain squatté en Abitibi, avaient des conditions de vie assez semblables. Une enquête dans plusieurs quartiers de Montréal, de Québec ou d'ailleurs aurait dressé à peu près le même portrait. On disait que les enfants du village étaient abrutis et hébétés et qu'ils avaient besoin d'une intervention rapide pour ne pas finir à l'asile ou au pénitencier. Plusieurs termes qu'on emploie beaucoup moins aujourd'hui. Donc ça a été un facteur. Roc d'Or comptait aussi beaucoup d'ennemis à Malartic. Les Malarticois et Malarticoises n'appréciaient pas outre mesure cette voisine bruyante, dérangeante, malpropre. Le curé de Malartic faisait des cauchemars en pensant à tous les péchés qui se commettaient à Roc d'Or et le climat de liberté qui y régnait. Monsieur le curé craignait sûrement que ça fasse tache d'huile. Les sociétés minières dénonçaient également l'existence du village qui corrompait les mœurs des travailleurs. Et quand je dis corrompre les mœurs, la boisson, les travailleuses du sexe, ça dérangeait les compagnies, mais beaucoup moins que le fait qu'on considérait Roc d'Or comme un foyer de syndicalisme. Toutes ces personnes et organisations avaient l'oreille du gouvernement. Mais il y avait aussi, et probablement surtout, des questions budgétaires qui entraient en ligne de compte. Peu de temps avant, un village en situation irrégulière nommé Rouyn-Sud avait été annexé à Rouyn et, très peu de temps après la fusion, le maire de Rouyn était à Québec pour se plaindre du fardeau que le nouveau quartier représentait pour sa ville et pour demander des subsides gouvernementaux. On était bien décidé à ne pas refaire la même erreur, d'autant plus qu'il existait d'autres villages de squatteurs dans la région. On ne voulait pas laisser proliférer les squats un peu partout. Donc, plutôt que d'agrandir Malartic pour y inclure Roc d'Or, donc raccorder Roc d'Or aux égouts, aux réseaux d'aqueduc et tout ça, eh bien, on a déménagé Roc d'Or dans Malartic. Les constructions qui étaient en assez bon état, 156 en tout, ont été carrément déplacées. Il y en a une centaine d'autres qui ont été détruites. En 1947, il ne restait pratiquement plus rien de la grouillante et libertine Roc d'Or, sinon les souvenirs de ses résidentes et résidents. Une bonne partie des informations que je vous ai partagées aujourd'hui est tirée d'une exposition virtuelle qui s'intitule « La sombre destinée d'un village mini, Roc d'Or la mal aimée ». C'est l'historien Alexandre Fauché qui l'a réalisé pour la Société d'histoire de Malartic. Vous pouvez consulter le tout à histoiredechezenous.ca. Vous cherchez ensuite « Village mini, Roc d'Or ». vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'images de Roquedort et des villes avoisinantes dans les années 30 et 40 sur le site.